magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, toujours libre et sans pub. Le journal de Tumulte avec Guy et Philippe, nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Avec lui, nous allons parler du traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance, du nouveau rôle, on verra s'il est nouveau, de la BCE. Et puis, tous ensemble, nous parlerons de nos lectures d'été. Salut Guy, te retire pas. Tumulte, tout le monde est au rendez-vous. C'est le tumulte au complet de rentrée.
Et motivé.
Motivé. Un mot Guy, allez.
Moi, motivé, ouais, hein. Motivé, c'est reparti. Comme à chaque rentrée, motivé.
Et pour commencer, Laurent, on va parler du traité. Alors, il s'appelle Traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance. Et ce mercredi, il sera au menu du gouvernement français.
Du Conseil des ministres.
Conseil des ministres, plus exactement, voilà. Sous la forme de la rédaction d'une loi organique qui passera au Parlement.
Effectivement, demain, c'est un Conseil des ministres un petit peu exceptionnel en France et même en Europe, puisque c'est la préparation du débat à l'Assemblée nationale, qui s'ouvrira sans doute dans les premiers jours d'octobre, on dit le 2 octobre dans la presse, pour faire adopter par l'Assemblée nationale deux textes en fait, hein, faire adopter le traité, de stabilité, de coordination et de gouvernance, comme tu l'as dit sans fourcher deux voix. Faire adopter donc le traité qui a été signé par Nicolas Sarkozy le 2 mars dernier, et qui est ce nouveau pacte budgétaire d'austérité renforcée. Et en même temps, faire adopter ce qu'on appelle une loi organique, qui en gros constitue les modalités d'application de ce traité tel que la France entend le faire fonctionner dans ses institutions politiques.
Dans le cadre de sa constitution.
Voilà, dans le cadre de sa constitution et de l'organisation de ses pouvoirs publics. Donc voilà, il va y avoir deux textes présentés à l'Assemblée. Le traité, est-ce que vous le ratifiez ou pas, et cette loi organique qui vise à... qui en est le décret d'application si on voulait être polémique. Alors évidemment, c'est un tournant historique. Je ne sais pas si tout le monde en a vraiment pris la mesure. Ça ne s'excite pas énormément quand même, j'ai l'impression, dans le débat politique, économique et d'expertise. Et pourtant, la France, mais après d'autres pays européens, puisque presque une dizaine ou une douzaine d'autres pays européens l'ont déjà adopté, s'apprête à faire rentrer dans sa constitution, on va le dire, une règle d'équilibre budgétaire, parce que c'est quand même ça l'essentiel de ce que contient ce traité, une règle d'équilibre budgétaire qui corsetterait donc la politique économique avant même que les députés aient eu à se prononcer sur le budget annuel. Eh bien, ces députés sauraient qu'ils doivent respecter une ligne jaune qui est qu'à moyen terme, le budget ne doit pas être déficitaire de plus de 0,5% du produit intérieur brut. Voilà.
En déficit structurel.
Alors, c'est ce qu'on
appelle. On reviendra sur cette question
cette
après.
Question. Donc, on va inscrire une règle de politique économique dans la Constitution. Mais encore une fois, chez nous, ça prendra peut-être un caractère exceptionnel, on verra. Mais en tous les cas, on va le faire après une dizaine d'autres pays européens qui ont fait la même chose sans trop sourciller. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Et qui rétablit d'une certaine manière comme table de la loi l'orthodoxie budgétaire telle qu'elle a fonctionné jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle.
Autre mesure contenue dans le pacte, enfin ou dans le traité, c'est la question du montant maximal de la dette, 60% du PIB, c'est ça?
Alors ça, c'est pas tellement une nouveauté parce que ça figurait déjà dans le traité de Maastricht. Et ça figurait déjà dans le pacte budgétaire renforcé qui a succédé à Maastricht pour la mise en place de l'euro. Donc cette règle-là n'est pas nouvelle. Ce qui est vraiment nouveau, c'est l'obligation pour les États de présenter sur 3 ans des budgets indiquant la manière dont ils comptent s'y prendre pour respecter ce déficit structurel de 0,5%. Et donc l'Europe va pouvoir examiner les choses. Et l'Europe pourra fixer des sanctions qui peuvent être très lourdes pour les États qui ne souscriraient pas ou qui déraperaient par rapport à cet objectif de convergence triennale vers ce déficit quasiment zéro pour aller vite.
Mais justement, tu dis que c'est nouveau, mais en fait, dans le traité de Maastricht, dans le pacte qui a suivi, on avait déjà le corset d'un déficit limité à 3%.
Et 3%, et là, c'est 6 fois moins. Hein.
Oui, mais là, c'est en déficit structurel, comme ils disent. C'est-à-dire...
Oui, d'accord. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le déficit structurel ?
Voilà, il faut que tu nous expliques
bon,
ça.
On n'interdit pas complètement aux États d'avoir une fluctuation de leur déficit budgétaire d'année en année autour de cette cible de 0,5%. Simplement, ce qui est indiqué, c'est que si nous étions dans un état de conjoncture ni déprimée, ni trop avenante, hein, de surchauffe ou au contraire de récession, eh bien en moyenne on pense qu'il n'y a ni surchauffe ni récession, en moyenne il faut afficher un déficit à long terme de 0,5% par an. Quand l'économie est en surchauffe, ce sera moins, et quand l'économie est en récession, le déficit sera plus important puisque l'activité économique sera plus basse et les rentrées fiscales plus basses. Mais grosso modo, ça veut dire quand même que la ligne jaune à long terme, autour de laquelle il ne faut pas trop tituber, c'est un déficit public de 0,5%. Alors peut-être pour donner l'ampleur de cette aberration, et sans dire qu'il faut être des adorateurs du déficit, je pense qu'il ne faut pas être des adorateurs a priori du déficit public, pour une raison simple, c'est que ce n'est pas la peine ensuite d'offrir des rentes à 5 ou 6% à des gens sur lesquels on n'a pas prélevé l'impôt. Donc quand il y a un déficit public, il faut le financer. Généralement, c'est les catégories aisées de la population qui peuvent acheter les titres de créance pour financer la dette publique. Et pour les remercier de ne pas avoir payé l'impôt sur eux, on leur accorde en plus un taux d'intérêt de 3 à 5% par an. Donc cette situation n'est pas souhaitable, bon, à long terme. Mais en tous les cas, à court terme, il se peut que l'État ait vraiment besoin de pouvoir mener des politiques actives pour nous sortir de la récession. Enfin, on dit ça, on a l'impression qu'on sort des banalités, mais si les États n'avaient pas fait ça il y a 3 ans pour essayer d'enrayer la profonde récession qui se présentait à la suite de la crise financière, je pense que ça aurait pu complètement exploser. Complètement. Et certains États y sont allés par des déficits abyssaux pour essayer d'enrayer la situation. Moins 10% de déficit budgétaire pour les États-Unis pendant 2 ans, à peu près autant, moins 10% de déficit budgétaire pour l'Angleterre pendant 2 ans. Bon. Donc on peut avoir besoin à certains moments, et parfois pendant des périodes qui sont plus ou moins longues, d'avoir des déficits budgétaires forts pour empêcher que l'économie s'effondre. Ce qui est bizarre, c'est qu'on vient d'en avoir la démonstration, et la loi qu'on s'apprête à voter, c'est une loi qui raconte qu'il faut faire le contraire. Ça, c'est déjà très étrange. Mais surtout, c'est une loi qui est, même lorsqu'on a le souci de l'équilibre budgétaire à long terme, qui place ce souci au mauvais endroit. Pour quelle raison ? Parce qu'on va prendre un exemple. Nous avons actuellement un déficit budgétaire, la France, qui avoisine, j'exagère, c'est 90% du produit intérieur brut. Mais disons, pour simplifier nos raisonnements, disons 100%. Peut-être qu'on y arrivera d'ailleurs. Les États-Unis y sont déjà. Donc l'équivalent, pas du déficit budgétaire, l'équivalent de la dette. Jean faisait un drôle d'air. La dette accumulée, c'est-à-dire l'accumulation finalement des déficits budgétaires passés, avoisine aujourd'hui à peu près 100% du produit intérieur brut. Bon. Si nous avions 3% de croissance, c'est aujourd'hui un peu du domaine du rêve, mais autrefois, ça ne l'était pas du tout. Bon, si nous avions aujourd'hui 3% de croissance et 5% d'inflation, on pourrait très bien faire croître cette dette publique de 5% d'une année sur l'autre, en valeur, sans que sa part dans le PIB n'augmente. Alors c'est très important ce que je viens de dire, même si c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire que nous pourrions bien augmenter la dette de 5% du PIB, tout en faisant en sorte que son poids dans le PIB n'augmente pas. Donc on pourrait s'autoriser, s'il y avait 3% de croissance et 2% d'inflation, on pourrait s'autoriser un déficit budgétaire équivalent à 5% du PIB sans faire croître notre dette. Je continue. Ça veut dire qu'en dessous de 5% du PIB, si on pense que 3% de croissance c'est raisonnable et 2% d'inflation c'est raisonnable, en dessous de 5% du PIB, on a une dette dont le poids diminue dans le PIB. Donc on est déjà dans une politique, disons, de réduction de la dette. Alors évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas 3% de croissance. Mais disons que si demain, c'était ne serait-ce que 1,5% de croissance et 2,5% d'inflation, on pourrait se permettre une dette publique, un déficit public annuel de 4% sans que la dette n'augmente. Donc la barre à partir de laquelle on commence à rentrer dans la rigueur, c'est en dessous d'un déficit de 4%. Et là, on dit non, pour être rigoureux et propre sur soi, il faut aller jusqu'à 0,5. C'est complètement absurde. Complètement absurde. Donc c'est-à-dire, même au niveau des connaissances économiques de base, on a l'affichage de quelque chose de complètement idiot, d'hyper orthodoxe et qui ne correspond à aucun raisonnement sensé. Bon. Alors, est-ce qu'on aurait besoin à long terme d'un déficit budgétaire important, de l'ordre de 3 à 4%? C'est pas impossible, disent certains économistes. Pourquoi? Parce que dans les sociétés développées, et c'est encore plus vrai pour un pays comme la France, la population a tendance à épargner beaucoup, et en particulier la population aisée. Donc on a des taux d'épargne élevés, et ces taux d'épargne élevés sont supérieurs dans un pays comme la France à la volonté d'investir des entreprises. Ce qui fait que cet excès d'épargne n'a pas tendance à financer le besoin d'investissement et de dépenses des entreprises. Donc c'est de l'épargne qui, d'une certaine manière, se constitue de façon stérile et même d'une certaine manière contre les profits des entreprises. Bon, on n'a pas le temps d'en discuter, mais en tous les cas, elle a un débouché stérile et même récessif. Hein. C'est carrément un trou dans la dépense globale. Bon. Et bien, quand on est dans un pays comme ça, avec une surépargne intérieure, et en particulier des ménages, il n'est pas du tout aberrant que cette épargne soit saisie par l'État, soit en s'endettant pour qu'il fasse des dépenses publiques, à la place de ceux qui ne veulent pas dépenser, soit par l'impôt. Bon. Et donc, si l'État ne prélève pas l'impôt sur les classes aisées, il n'est pas aberrant de se dire qu'au moins qu'ils empruntent leur épargne, d'une certaine façon, pour dépenser à leur place. Voilà ce qui est un peu la conjoncture de la France. Et donc, on peut penser que dans les pays riches, les États aient besoin d'un déficit structurel qui ne doit pas être trop important. À un moment donné, il faut savoir prélever l'impôt quand même sur les catégories aisées. Mais ça peut se justifier pour cette raison-là, une espèce de sous-dépense chronique dans la société. Et quand les uns surépargnent, eh ben, il vaut mieux que d'autres agents s'endettent pour continuer à alimenter la dépense. Évidemment. C'est déséquilibré, ça ne peut pas tenir à très long terme, mais ça peut tenir sur un très long moyen terme tant qu'on n'a pas trouvé les moyens de reprélever l'impôt correctement.
Alors est-ce que dans l'histoire des 0,5% de déficit structurel, 0,5% du PIB, par rapport aux 3% de déficit de Maastricht, est-ce que ce qui est important, ce ne serait pas justement le fait que ça soit lié à l'appréciation, ça soit donné à l'appréciation de la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui va dire si vous faites 3% de déficit, en fait, il y a 1,5% qui sont liés à la conjoncture. Donc, vous êtes en fait... à, comme j'ai dit, 3 moins 1,5, vous êtes à 1,5. Donc vous avez 1% qui doivent être sanctionnés. Mais ça, c'est la Commission européenne qui va le juger. Ce n'est pas les États, ce n'est pas un organisme démocratique, ce n'est pas le Parlement européen. Est-ce que ce n'est pas ça le point important?
Alors là encore, tout n'est pas complètement neuf là-dedans. Et il faut essayer de se demander ce qui a vraiment changé de ce point de vue-là, c'est-à-dire du côté du pouvoir d'examen et de sanction de l'Union européenne. Parce que déjà, au moment du traité, enfin, du pacte budgétaire renforcé pour la mise en place de l'euro, c'est-à-dire la transformation de Maastricht en ce pacte budgétaire, il y avait prévu ce mécanisme de sanction des États qui sortaient des clous. Bon. Avec des pénalités d'ailleurs qui n'étaient pas ridicules. Ça pouvait aller jusqu'à 0,5% du produit intérieur brut. Mais ces sanctions n'ont jamais vraiment été mises en œuvre. Il y a eu des avertissements de la communauté européenne. Et d'ailleurs, pourquoi ce n'était pas mis en œuvre? Parce que le mauvais canard à l'époque, c'était l'Allemagne. Bon, c'est l'Allemagne et la France avaient des déficits qui sortaient des clous. Bon, tant que c'était l'Allemagne et la France qui se conduisaient mal en Europe, ils n'étaient pas trop cartonnés. Bon, mais l'idée existait et tout ça a été prévu. Il y a quand même quelque chose de nouveau sur deux plans qui s'est produit très récemment, c'est que les dirigeants européens ont signé un espèce de mini-traité qui, lui, n'est pas venu devant le Parlement, mais disant que maintenant, il y avait ce trimestre ou ce semestre européen, je ne sais plus comment on l'appelle, les États devaient faire examiner leur budget au préalable,
oui.
Avant l'adoption par l'Assemblée nationale, par les institutions européennes. Bon. Et à ce moment-là, les institutions européennes rendaient un premier verdict en disant non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, et si vous voulez rentrer dans les clous, voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire indique carrément au Parlement, c'est ça la nouveauté, ce qu'il faut faire pour revenir dans les clous. Donc vous pourriez tout à fait avoir ces institutions européennes qui disent, pour revenir dans les clous, vous baissez de 2 points les prestations retraite, ou sinon, vous serez sanctionné. Donc le dispositif s'est formalisé de ce point de vue-là, et maintenant on pourrait dire il existe vraiment. Et puis ensuite, il y a l'expérience, entre guillemets, des dérapages budgétaires constatés qui font sursauter tous les orthodoxes au niveau européen, ce qui fait que maintenant les sanctions, les États vont sans doute avoir envie de les appliquer quand il y aura quelqu'un qui franchira les lignes jaunes. C'est ça les deux nouveautés introduites depuis un an.
Guy ?
Oui, deux questions à propos de la règle d'or. Tu as dit au tout début, là, je voudrais que tu expliques un petit peu que, en fin de compte, là, cette règle d'or, c'est le retour d'une règle économique qui était en vigueur jusqu'au 19e siècle. Je voudrais que tu expliques un petit peu là, parce que
Elle n'était pas formalisée, elle n'était pas écrite, mais les États se sont comportés hors période de guerre et de conflit. Depuis la révolution industrielle, en gros, les États s'étaient comportés, et depuis la révolution industrielle jusqu'à la crise des années 30, les États s'étaient comportés, comme on dit, en bon père de famille, c'est-à-dire avec cette idée qu'il doit absolument équilibrer ses comptes d'année en année, et que c'est ça la bonne gestion publique. Alors, c'était justifié par des raisons théoriques, en particulier... les économistes pensaient que tout déficit budgétaire était par nature inflationniste, et puis que tout déficit budgétaire finirait par nous conduire au socialisme, parce qu'après on augmenterait les impôts, on commence par augmenter les dépenses, puis après on augmente les impôts, et puis après il n'y a plus de limite à l'augmentation de la taille de l'État dans l'économie. Donc il y avait, c'est plutôt la doctrine au pouvoir qui interdisait globalement qu'en pratique, on pratique le déficit budgétaire, sauf en cas de guerre ou en cas de récession vraiment subie et non prévue. Mais ce qui n'était pas rare. Et même dans ces cas de récession, et c'est ce qu'a dénoncé Keynes dans les années 30, même dans ces périodes de récession, comme on a connu l'économie à la fin du 19e siècle, la plupart des économies occidentales, les États, en pleine récession, voyant leurs recettes fiscales baisser, taillaient dur immédiatement dans la dépense. Et donc, ils rajoutaient de la récession à la récession. Et c'est ce que Keynes appelait le point de vue du trésor, c'est-à-dire qu'il faut gérer le budget de l'État en bon père de famille. Et Keynes, une des choses qu'il a le plus combattu, c'est ça. C'est que dans les moments de dépression, il ne faut surtout pas faire comme ça. C'est l'inverse. Il faut non seulement laisser filer le déficit et accepter de voir l'impôt rentrer moins facilement, Mais même, c'est pas taillé dans la dépense. Ce qu'il faut faire, c'est suppléer à l'insuffisance de la dépense privée. Et donc, à ce moment-là, l'État doit relancer l'économie par un supplément de dépenses publiques. Bon. Et donc, quand je dis qu'on revient à une conception du 19e siècle, c'est au niveau de la doctrine qu'on revient à cette conception.
Alors, deuxièmement, bon, tu nous as fait la démonstration que cette règle d'or est absurde, même d'un point de vue économique. Bon, pourtant, les gens qui la mettent en place, ils ne sont pas absurdes. Enfin, hein, je pense que c'est réfléchi, ils ont des objectifs, ils savent où ils vont, quoi. Donc, quel est le projet, quel est le projet des dirigeants européens qui cherchent à mettre en place cette règle d'or, projet politique. En fin de compte, quand on dit projet politique, c'est peut-être finalement de faire régner l'économique. Et donc les économistes devraient être contents, hein, peut-être, non, de voir ce type
Laurent,
de...
Laurent, tu vas accéder au pouvoir à travers ta discipline.
Non, mais on l'a déjà abordé, cette question. C'est pas facile de dire pourquoi. C'est quand même c'est vrai, c'est un enjeu qui reste une question d'étonnement et de curiosité. Et je pense qu'il faut admettre qu'il y a plusieurs réponses possibles qui sont vraies en même temps. Pourquoi ils font ça, si c'est idiot? Bon. Il ne faut pas exclure que parmi eux, il y ait des idiots. Je ne dis pas ça de manière polémique. Quand on voit s'exprimer certains responsables politiques français ou allemands ou italiens, on doute qu'ils aient un petit peu... Oh, bah, le ministre des Finances allemand, j'ai l'impression qu'il y a une petite bille qui roule quand même. Hein.
Et au niveau en France ?
Allez, je ne vais pas donner de nom. On est entre nous, là. On est tous des gars bien. Non, mais c'est vrai que quand on le voit causer d'économie, on se demande s'il en a un petit peu dans les doigts, quoi, d'économie. Donc, il peut y avoir des gros doutes. Angela Merkel, c'est pareil. Je pense que le plafond est bas sur ces questions-là. Hein. Peut-être que sur d'autres questions, elle est tout à fait performante. Mais sur ces questions-là, je crois que le plafond est bas. Ensuite, il y a des cyniques. Il y a certainement des hommes politiques libéraux qui ont très bien vu que la crise était le moment d'administrer une espèce de nouvelle stratégie du choc et de faire comprendre que ces déficits budgétaires qui étaient dus pour beaucoup à des politiques de baisse d'impôts systématiques sur les classes aisées, des cyniques ont pensé que c'était le bon moment pour essayer de faire comprendre à la population que non, ces déficits budgétaires étaient dus au gaspillage, à la gabegie et au comportement irresponsable des gouvernants et des hommes politiques qui s'étaient mis à dépenser à tout va, et que si ça continuait comme ça, on était tous emportés dans la tombe à cause, voilà, de gouvernements irresponsables qui distribuaient des retraites à tout le monde, remboursaient les médicaments à tout le monde, sans se soucier de savoir s'il y avait de l'argent. Et donc voilà, ces gens-là ont trouvé que c'était le bon moment pour mettre l'État sous pression. Faire voter des programmes de baisse des dépenses publiques, de baisse des programmes sociaux, et on peut dire que ça marche, hein, ça marche. Bon. Et puis
il y a pas non plus de levier.
Et puis il y a toute l'armée de ceux qui justement ne réarment pas leur conscience politique, leur programme politique, leur idéologie, et qui arrivent au pouvoir avec des programmes d'une mollesse qui n'est plus d'époque. Je veux dire, là l'époque elle est dure. On est revenu dans une espèce de lutte à la fois entre doctrine et entre classe. Bon. Et vous avez des gens qui arrivent au pouvoir un petit peu en sifflotant quand même. Bon. Alors ceux-là, à la première négociation, ils se font avoir et puis ils accompagnent le mouvement dominant. Et donc on n'est pas sorti du consensus néolibéral.
Mais bon, tu parles des politiques, pour terminer, tu parles des politiques, mais les économistes, il n'y a pas de levée de bouclier. Tu dis que c'est une règle économique idiote, etc., mais il n'y a pas de levée de bouclier non plus au niveau du milieu économique.
Il y a toujours la vaillante armée des hérétiques qui est évidemment toujours debout.
Qui sont rejoints quand même par des prix Nobel.
Voilà, mais qui sont quand même rejoints depuis 4 ou 5 ans par des gens qui l'ouvrent un petit peu plus que ce qu'ils faisaient auparavant. Et parfois qu'ils le font même de manière sonore. Et, bon, par exemple, Krugman, Stiglitz, c'était des gens qui sont quand même... qui ont grandi dans la citadelle néoclassique, qui étaient propres sur eux et orthodoxes, et qui quand même, au fur et à mesure, ont commencé à admettre que leur doctrine nous emmenait dans le mur. Pas seulement d'ailleurs sur la crise économique et financière, mais sur les politiques d'ajustement dans les pays en voie de développement. Ça a commencé par ça, les critiques de Stiglitz. Bon, donc il y a des gens quand même qui évoluent. Puis même en France, des économistes qu'on aurait situés très proches du nouveau consensus il y a encore 5 ou 6 ans font entendre leur voix. Donc ça se fissure un peu de ce point de vue-là, mais c'est qu'au niveau politique, ça n'a pas beaucoup bougé. Alors même que certains grands dirigeants économiques, eux, ont révisé plusieurs fois leur... sinon leur doctrine, du moins leur manière de faire.
Il faut peut-être ajouter à la catégorie des cyniques dont tu parlais, là, du projet libéral, l'objectif qui est d'évacuer le débat politique. En mettant des mécanismes, des automatismes, des jugements par la commission qui n'est pas élue, bon, on évacue le débat politique et on squeeze la réalité de la démocratie. Et la question démocratique dans cette affaire, évidemment, elle ne se réduit pas à est-ce qu'il y a un référendum ou pas pour adopter ou pas le traité. C'est le contenu lui-même du traité qui pose problème.
Oui, mais bien entendu. Mais la revendication du référendum, elle n'est pas formelle. S'il y a revendication dans les milieux altères, disons, d'un référendum, c'est bien pour rediscuter du fond des choses, j'imagine.
Autre question, on a l'impression quand même que ce traité, il est déjà anticipé par les différents gouvernements. Bon, évidemment, on a la réalité de ce traité en fait en acte en Grèce, en Espagne, au Portugal, etc. Mais en fait, en France, avec les objectifs fixés par Hollande, de limitation du déficit, on est déjà dans le cadre du traité.
Ben, l'objectif, je ne sais plus si c'est en 2016 ou 2017, mais l'objectif de François Hollande, c'était l'équilibre budgétaire à la fin du mandat, si je me souviens bien. Donc effectivement, il est déjà, lui, dans les clous du traité constitutionnel. Et le paquet de 30 milliards d'euros, soit de prélèvements nouveaux, soit de réduction des dépenses, c'est bien pour inscrire la France dans une trajectoire comme celle-là. Alors, disons deux mots quand même, parce que pourquoi tout ceci est dramatique et scandaleux ? C'est parce que nous avons en même temps sous les yeux le spectacle de ce que donne l'ensemble de ces politiques d'austérité qui se sont coordonnées depuis 18 mois en Europe. Et c'est un spectacle terrible. C'est-à-dire que nous sommes maintenant de nouveau en récession. Et là, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est bien la coordination des politiques économiques, dans un sens unanimement récessif, qui a réengagé l'économie dans la récession. Je ne dis pas qu'elle en était sortie pour atteindre des taux de croissance de 4 à 5%, mais d'après les études, par exemple, de l'OFCE, même les études de Natexis, même les études du FMI et de l'OCDE, il est clair que c'est le remède de cheval qui est prescrit aux économies européennes qui nous ramène à la croissance zéro, voire une croissance négative. Bon. Et donc, de nouveau, montée du chômage, et de manière spectaculaire, et puis des États qui répondent à cette situation en serrant encore un petit peu plus la vis. Bon. Donc, c'est véritablement ça qui est dramatique dans cette situation.
Pas d'autres questions ?
Peut-être deux mots pour dire que ce débat pourrait être prolongé.
Oui, justement.
Ah ben, vas-y.
Non, mais c'est... S'il n'y a pas d'autres questions d'autres aspects soulevés sur le traité, peut-être justement, Laurent, tu vas animer un débat sur cette question à Lille le 27 septembre.
Donc jeudi 27 septembre, à l'espace culturel, l'espace culture de l'université Lille 1. Donc le débat a lieu à 18h, de 18h à 20h. Les deux invités sont Jean Gadret et Michel Husson. Et le thème, c'est celui dont on traite ici, hein, c'est la crise, par où la sortie. Alors il est vrai qu'au départ, on avait un peu plus orienté la question sur l'austérité n'est pas la solution, mais la croissance n'est peut-être pas non plus la panacée. Y compris pour des raisons de qualité du développement, du modèle de développement et des contraintes écologiques. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer une sortie par le haut avec un autre modèle de développement ? Là, compte tenu de la conjoncture politique, ça va recentrer un peu plus sur l'adoption du traité de stabilité et de convergence.
Voilà. Puis pour compléter, peut-être signaler qu'il y aura une manifestation nationale des opposants à ce traité le 30 septembre à Paris, à La Nation. C'est avec un appel unitaire, 13h30 à La Nation, à Paris. Donc, et avec la demande, accompagnant ce refus de ce traité, de la demande d'un référendum. Voilà. Est-ce qu'on
je fais une précision, la conférence est en partenariat avec ATTAC et les économistes atterrés.
D'accord. Alors peut-être les économistes atterrés, bah, peut-être on va en parler dans les lectures de nos lectures d'été. On dit rien sur la BCE cette fois-ci ?
Non, ce sera encore là la fois prochaine.
Ouais. C'est quoi déjà la BCE ?
Alors, qui répond ?
Ah ben bah non. Ah, on laisse je crois qu'il attendait pas de réponse.
Non, là, c'est bon, on en parlera la prochaine fois.
Ah, bah voilà. Ça plane pour nous.
Les lipides saturés et les musclés, les vibros en plastique, les pilules écologiques, les seins gonflés, les silicones pétés, les anneaux à l'estomac, les fils à papa, ça plaint pour nous, y a trop de tout, mais rien pour nous, ça plaint pour nous, y a trop de tout, mais rien pour nous, les maîtresses et le stress, les chanteuses et les coiffeuses. Les régimes dits et les cartes de crédit. Liberté, sécurité, ma télé, ma santé. Les artistes, les anarchistes, les dictateurs et leurs coiffeurs. Ça plaint pour nous, y'a trop de tout, mais rien. La gauche, la droite, mariée, divorcée. Plus beau, la plus belle, les botox et les belles escalopes. Un charcutier est marié avec un plombier. Les pop stars et le cauchemar, les enlèves et les danseuses. Ça plaint pour nous, y a trop de temps.
Ça plane pour nous, donc c'était Arnaud, extrait de son dernier album, Futur Vintage. Vintage, hein, je veux dire.
Tu dis dernier album, tout dernier album alors ?
Oui, ils sont plus récents, mais qu'en fait...
Parce qu'il en sera, il y en a un qui sort.
Oui, il est sorti là, il est dans les chez les disquaires depuis un ou deux jours.
Donc c'est celui-là alors ?
C'est celui-là, ouais, mais PFM là depuis déjà quasiment deux mois.
PFM très fort.
Ah, très fort. Hein.
Oui, parce que j'avais l'impression de l'avoir déjà entendu cette...
Ah, ça plane pour nous. Ouais. Alors, avec donc Laurent, Philippe, Guy et moi, nous allons parler de nos lectures d'été, histoire de se donner les uns les autres et aux auditeurs des idées en fait de lecture. Qui commence ? Ouais, c'est Philippe. Philippe, on ne l'a pas encore entendu.
Ah, moi, ça va aller vite. J'ai absolument pas lu. Donc voilà.
Tu n'as pas lu.
Non. Non, rien de sérieux. Voilà.
Non,
c'est vrai.
Des choses pas sérieuses.
Mais
tu
même.
Tu peux dire que tu as lu San Antonio, c'est très bien. Moi, j'ai lu aussi du San Antonio, j'aime bien. L'été, c'est vraiment très sympa.
Non, très sincèrement, j'ai rien entrepris de terrible au niveau lecture.
Bon, Philippe.
Bon, alors là, pour le coup, je suis coincé, du coup. Alors, moi, j'ai lu des choses très sérieuses. À ce moment-là, je vais peut-être parler. Oui, donc, j'ai lu. Je vais parler de deux textes, peut-être, que j'ai lu cet été. Un texte de Herbert Marcuse. Qui est donc Herbert Marcuse, c'est un philosophe allemand, d'origine en tout cas allemande, qui a passé la seconde partie du XXe siècle, donc a passé la seconde partie de sa vie aux États-Unis, hein, puisqu'il s'est exilé d'Allemagne au moment de la montée du nazisme. Alors, le texte que j'ai lu cet été, c'est un texte qui s'appelle « Raison et révolution », qui est une lecture de Hegel. Alors, le texte, il a été écrit, l'un de ses intérêts majeurs, c'est qu'il a été écrit en fait en 1939, quand Marcuse était déjà aux États-Unis. Et l'objet du texte, c'est d'essayer de montrer que donc Hegel, le grand philosophe du XIXe siècle, donc, en fait, est quelqu'un qui est l'inventeur de la pensée dialectique, donc qui a nourri Marx, toute la théorie critique, etc., de la société. Et en fait, quand Marcuse écrit ce texte, ce qu'il vise, c'est un peu les lectures ou les oppositions à toute cette pensée, à toute cette philosophie dialectique du XIXe siècle, avec la montée du nazisme et du fascisme, etc. Alors, donc il montre d'une part que finalement les fascistes ou les nazis, alors certains... Les nazis sont très hostiles à Hegel, par exemple, globalement, idéologiquement. Les fascistes, au contraire, aiment chez Hegel, en fait, une espèce de valorisation de l'État. Bon. Et en fait, ce que veut montrer Marcuse, c'est qu'en réalité, c'est pour les mêmes raisons qu'ils aiment ou détestent Hegel. C'est-à-dire que Hegel, certes, il faisait une apologie de l'État, post-révolution française, etc., hein, il avait une grande admiration pour Napoléon, par exemple. Mais en même temps, pour lui, pour Hegel, il s'agit de montrer quand même que l'État était quand même quelque chose qui n'avait de sens que s'il était fondé sur une pensée rationnelle et sur la reconnaissance des libertés individuelles. C'est-à-dire qu'Hegel reste malgré tout un penseur de la Révolution française, quoi, un héritier de la Révolution française. Alors, Marcuse, qui est plutôt dans la tradition marxiste, on va dire, hein, en gros, quoi. En tout cas inspiré par Marx, lui reproche en fait une certaine... est d'accord sur le fait que Hegel se réconcilie trop vite avec la réalité, mais n'empêche que finalement, ce qui est cet État autoritaire qui se met en place, et la manière dont il va, à travers le fascisme et le nazisme, et la manière dont il va relire Hegel, c'est en fait valoriser l'État, mais en lui enlevant tout ce qui est de l'ordre de la rationalité, du rationalisme des Lumières, des conquêtes, finalement du libéralisme politique aussi, hein, qui est à l'époque leur grand ennemi. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, Marcuse, c'est un penseur que moi j'aime beaucoup parce qu'il essaie d'abord de tenir d'abord cette idée que la pensée dialectique, c'est avant tout une pensée de la raison et de la raison critique, c'est-à-dire... Bon, pour lui, il y a deux manières de penser la raison, en réalité. Soit une rationalité limitée, qui fait que finalement, et qui est au fond pour lui, qui a à voir avec toute cette pensée qui se contente de décrire les faits tels qu'ils sont et de les organiser, hein, qu'on trouverait finalement extrêmement développé dans nos sociétés. Soit au fond la vraie tradition de la raison, pour lui, c'est-à-dire d'une raison qui insiste sur le négatif. Hein. Il dit qu'au fond, dans nos sociétés, le péril... c'est que la puissance ou le pouvoir du négatif est en train de disparaître, c'est-à-dire le fait que, quand la réalité n'est pas rationnelle, c'est pas la réalité qui a raison, c'est la raison qui a raison contre la réalité, c'est-à-dire qu'il faut maintenir la puissance critique. Et juste là-dessus, dernier point, c'est que en fait, Marcuse, il était dans son histoire, quoi, il a participé à l'échec de la révolution allemande après la Seconde Guerre mondiale, hein, qu'il a profondément marqué, qu'au fond, il voit bien qu'un certain type de projet révolutionnaire n'est plus possible, que quelque chose s'est disjoint entre dans ce qui était la vision classique du 19e siècle, le prolétariat, le parti et la théorie qui vont emporter la révolution, mais qu'il faut quand même maintenir cette exigence. Donc, toute sa vie, il a continué quand même à chercher les formes possibles d'une véritable critique dans nos sociétés, quoi.
Eh bien, c'est intéressant tout ça, Philippe. Le fait que tu, bon, il y a le fait que tu aies lu Marcuse ou relu, est-ce qu'aujourd'hui on relit, c'est-à-dire on lit à nouveau Marcuse, bon, parce que c'est une des références du mai 68 français quand même, hein, Marcuse, oui. Hein, l'un des penseurs dont les gens se sont inspirés. Moi, j'avais l'impression que c'était un penseur qui avait un peu disparu, qu'on ne lisait plus.
Oui, alors ça c'est vrai qu'il y a eu, il a été extrêmement lu dans toute la période après 68, etc., et qu'il est complètement tombé en désuétude, avec même une espèce de mépris, hein, pour
Marcuse.
Oui,
j'ai l'impression. Ouais.
Bon, ce sera un penseur. Alors, je crois que, je ne sais pas si on le relit, si on le relit beaucoup aujourd'hui, mais je pense que les thématiques qui sont les siennes, ou en tout cas la préoccupation fondamentale qui est la sienne, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a, que les choses telles qu'elles sont ne peuvent pas durer, quoi, que ce n'est pas possible, qu'il y a une irrationalité du monde. Alors lui, quand il analyse la société américaine, ce qu'il appelle les sociétés industrielles avancées, bon, les sociétés capitalistes avancées, on pourrait dire, et qu'en même temps, il faut absolument trouver les formes et les forces sociales possibles pour changer ça. Il me semble qu'au fond, cette question-là, vu les formes que prennent aujourd'hui les différentes formes de crise, quoi, etc., on reste quand même. Je ne sais pas si les solutions ou les hypothèses de Marcuse sont bonnes,
actuelles, c'est ça que
mais elles sont
décourageantes.
Actuelles, oui.
Actuelles et décourageantes.
Oui, oui.
Alors, deuxième lecture, Philippe, que tu as...
Peut-être on va faire une...
Guy,
non, non, deuxième lecture, parce que là, t'es bien...
Après, peut-être, non,
on verra, on verra. Bah, après toi, ça va être difficile. Hein.
Ouais. Ouais.
Non, la deuxième lecture, j'ai lu aussi une
somme.
Comment ?
Une somme.
Alors, il y a deux...
J'ai deviné.
Oui. En fait, bon, j'ai lu le texte de Thompson là, sur la formation de la classe ouvrière anglaise, bon, qui est un texte absolument... C'est une somme, mais c'est un texte assez remarquable. Bon, là, j'aurais du mal à en dire des choses précises. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qui est très intéressant, et peut-être que ça rejoint un peu ce qu'on a dit juste avant, c'est quand même, moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait que il montre comment la classe ouvrière anglaise s'est formée à partir de la fin du 18e siècle, au 19e siècle, etc. Et alors, ce qui est très frappant, d'une part, c'est que elle n'a pas été simplement formée de l'extérieur par les conditions sociales, quoi. C'est-à-dire qu'il montre quand même que la classe ouvrière s'est formée à travers des choses très diverses, des associations, etc. Et qu'elle ne s'est pas formée uniquement de manière mécanique, comme si l'industrialisation produisait une culture ouvrière homogène. Donc en fait, la classe, elle s'est formée elle-même, quoi. En fait, c'est ça quand même ce que montre ce texte. C'est ça, c'est très intéressant parce que bon, il y a des luttes, bien sûr, mais il y a aussi des références culturelles, des façons de faire, des associations diverses, une variété selon les lieux, etc. Donc, autrement dit, même le prolétariat qu'on imagine comme le prolétariat disneyen, qu'on imagine presque comme ça, tout de suite tout formé, tout organisé, etc. En réalité, ça s'est pas passé comme ça, quoi.
Et donc, il y avait un troisième texte.
Attends, tu peux peut-être pour situer pour les auditeurs, tu peux peut-être rappeler à peu près l'auteur, à quel moment il écrit ce livre.
Alors, l'auteur, il écrit ça, oh, je dirais en 1950, 1960.
Ouais, c'est ce que j'ai dans la tête, ouais, je crois que c'est ça.
Ouais.
Et c'est l'important aussi, c'est qu'on le trouve en édition de poche maintenant.
Voilà,
c'est
on
ça
le trouve en édition de poche, oui. Ouais. Et c'est une lecture passionnante.
D'accord. Il y avait un troisième.
On est coupable, hein, parce que tu nous avais recommandé de le lire. Hein. On s'était presque engagé, puis je sais pas, après c'est tombé dans un trou de mémoire. Mais on devait le dire aussi avec Jean. Et je sais pas si t'étais dans le complot.
J'avais noté, mais moi. J'ai plutôt. L'été, je me concentre plutôt sur des lectures plus pragmatiques, quoi, disons. Mais en lien avec ça, moi, j'ai lu Orwell, hein, qui est de Vigan. Donc, c'est très proche, en fin de compte. Hein, sauf que c'est un regard de journaliste. Hein, c'est l'Orwell journaliste. Et avec une plongée moins théorique, moins analytique. Mais je pense que la démonstration est tout aussi forte, hein, quand on sort de ce bouquin. Bon, en plus, le quai de Vigan, il y a une partie descriptive, mais il y a une partie d'analyse politique. Et moi, je trouve que ça, c'est très fort. Hein. Alors, celui-là, on le trouve aussi en poche, hein, en 10-18, mais difficilement. Et je voulais absolument le lire parce qu'il y a 3 ou 4 ans, ici à Arras, on avait primé un bouquin de Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham, hein, sur l'histoire d'une de femme de ménage à Caen. Elle s'était plongée dans ce milieu-là. Et elle avait titré son livre, hein, qui avait eu le prix à Milan Meyer, Le quai de Ouistreham, en hommage au texte de Orwell. Et donc, je pense qu'il faut lire Orwell comme il faut lire Albert Londres. Enfin, c'est journalistes qui donnent un regard, hein, sur la société vraiment de l'intérieur, brut, hein, descriptif, mais qui a des conséquences. Hein. Bon, Albert Londres, on sait que son roman sur le... Enfin, son texte sur le bagne a fait fermer le bagne. J'ai relu aussi un peu cet été, de la même manière, Kessel. Alors Kessel, c'est impressionnant quand même. Hein. On lit L'Armée des Ombres. Bon, on voit ça, on a le film en tête, hein, de Melville, etc. Mais le bouquin, il est écrit en 42. C'est du journalisme, quoi, hein. Quand on sait que le bouquin est écrit en 42, ça change tout, quoi. En 42 ou 43, même chose.
C'est pas pour faire un scénario.
Voilà, c'est ça. Hein, on est vraiment dans le. Et pour terminer, puis après je te redonne la parole. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à lire. Quelqu'un qui peut être aussi considéré comme un observateur, hein, très puissant, hein, d'une société, c'est Victor Hugo. Hein. Bon, y a l'œuvre romanesque. Et puis surtout, moi, j'ai lu cet été donc ses écrits politiques. Hein, c'est dans la collection l'œuvre complète de Victor Hugo. Chez Bouquin, là, vous savez, c'est les pavés. Bon, il y a je ne sais pas combien de tomes, et ses écrits politiques, c'est un tome, donc il y a 1100 pages, mais il s'est écrit vraiment tout petit, parfois il faut une loupe, hein, puis il y a plein de notes, ça c'est un peu chiant, mais bon, on est en vacances, on a le temps, mais les notes, pour voir les numéros de notes, parfois il faut vraiment une loupe et tout, mais en tout cas, c'est...
Il ne faut pas tourner les pages trop fort, elles se déchirent.
Voilà. Non, c'est assez solide, mais en tout cas, c'est... là il y a une dimension littéraire, quoi, hein. C'est en plus forte, et ce sont les discours, hein, de Victor Hugo, discours de il a été pair de France quand même, hein, avant 48, il a fait beaucoup de choses, hein, ces discours de député, de sénateur, de proscrit. Il faut quand même se souvenir qu'il a été proscrit 19 ans, hein. Il était exilé, hein, il pouvait pas mettre les pieds en France. Et donc il y a à la fois la dimension littéraire, alors l'emphase, hein, ces discours des envolées, le regard sur la société, et puis quelque part c'est un visionnaire. On parle d'Europe, etc., mais il parle que ça, il parle que d'Europe, d'un combat, lui, pour la liberté. Enfin, sa vision des États-Unis d'Europe, elle s'appuie sur quelque chose de très simple, hein. Il dit en France, il y a eu un temps où les Bourguignons, ils faisaient la guerre aux Picards, etc. Ça n'existe plus, hein, au 19e siècle. Et puis dans quelques années, il pensait que ce serait le 20e siècle. Les Italiens ne feront plus la guerre les Allemands ne feront plus la guerre aux Français ou aux Anglais, de la même manière que les Bourguignons ne font plus la guerre aux Picards. Et donc quelque part, il y a une vision juste, qui est arrivée plus tard que prévu, mais c'est très fort sur la question aussi de la peine de mort. C'est quand même le premier grand militant anti-peine de mort, et de toute sa vie, hein. Et jusqu'au bout, il a lutté avec acharnement contre la peine de mort. Et il y a des textes, alors il y a des romans, etc. Enfin, il y a, hein, le journal d'un condamné à mort, c'est un texte de base, mais il n'arrête pas, quoi. Dans toutes ses prises de parole, il revient toujours à ça, il remet toujours sur la table, et c'est vraiment, moi j'ai été impressionné. Alors il y a une période un peu plus compliquée, hein, on en parlait, c'est par rapport à la commune. Et donc... alors là, bon, ça me donne des sujets de lecture pour l'été prochain. Alors effectivement, il n'a pas soutenu la commune en tant que telle. Il a soutenu la démarche politique, hein, l'idée d'une commune à Paris dans le fonctionnement démocratique de la société, pour lui, c'était complètement évident. Mais il a reproché, alors moi je sais pas exactement, là je connais pas le détail, hein, il a reproché par exemple les pratiques, hein, des communards par exemple sur les exécutions d'otages apparemment, hein, donc il y a eu des exécutions d'otages par les communards, et donc
c'est la commune sans la guerre civile, quoi.
Voilà, est-ce que c'est une guerre civile, parce que exécution d'otages c'est
une guerre en tout cas.
Ouais, mais ensuite...
Après, il s'oppose à la répression des communards.
Il s'oppose tout de suite, quoi, hein, bien entendu. Il était pour l'amnistie, puis l'amnistie intégrale, complète pour tous, quoi. Mais cette question, justement, de guerre civile, on est d'accord, mais d'exécution de pratique, hein, d'exécution d'otages à l'aveuglette, etc., j'essaierai d'étudier ça un peu. Si Jean, tu as des pistes par rapport à ça, ça m'intéresse.
Et pour faire le lien avec ce que tu as dit, après on redonnera à Philippe, mais parce qu'il faut se dépêcher un peu. Sur la commune, moi j'ai lu le dernier livre de Didier Deninx, qui est en fait la description. Enfin, c'est Maxime Lisbonne, donc un communard un peu particulier, qui raconte sa vie, hein, mais évidemment c'est écrit par Didier Deninx, donc on a tout ça, on entend évidemment parler de Victor Hugo, c'est très intéressant. Et puis toujours en lien à ce que tu as dit, Victor Hugo a écrit sur Napoléon le Petit, hein, et donc moi j'ai relu le 18 Brumaire de Louis Bonaparte de Karl Marx, qui est vraiment... alors on peut pas le suivre dans tous les détails, parce qu'il faut vraiment avoir une connaissance historique, factuelle, que en tout cas moi je n'ai pas. Mais le début, la fin de ce livre, c'est vraiment étonnant. Il cite d'ailleurs un petit peu Victor Hugo, mais c'est vraiment excellemment écrit. Et puis pour faire le lien avec ce que Laurent nous a dit au début, j'ai lu le bouquin des économistes atterrés, un tout petit livre là sur ça s'appelle L'Europe maltraitée, hein, refuser le pacte, etc. C'est très bien fait, on comprend tout, c'est très intéressant. Voilà. Bon, j'ai lu d'autres choses, mais bon. Vas-y Philippe.
Ah, moi j'avais quand même une question, parce que tu nous as pas dit exactement le quai de Wigham, de quoi ça parlait.
C'est un reportage chez les mineurs. C'est la région de Wigham en Angleterre, quoi. Donc il s'est plongé dans le milieu des mines, et il y a une description. Donc la première partie, hein, de l'ouvrage, c'est vraiment une description du quotidien des mineurs. Donc le quotidien dans la mine, hein, il est descendu avec eux, les conditions de travail, c'est impressionnant, quoi. On est dans les années 20, hein, 20-30, les conditions de travail dans les mines, c'est vraiment impressionnant. Et les conditions de vie, hein, donc conditions de travail, conditions de vie de la classe ouvrière, hein, qui est quand même dans la misère, qui vit dans la misère. Et puis ensuite, donc, il y a une deuxième partie, on peut dire d'écrit plus politique, c'est-à-dire d'analyse, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire, enfin, que retenir, hein, de cette réalité sociale pour élaborer un discours politique, pour faire bouger les choses, quoi.
Ce que tu dis là sur le quai de Wigan, ça me fait penser, d'ailleurs je suis un peu étonné que tu n'en parles pas, à Jack London sur... c'est le peuple de l'abîme,
ouais.
Où je crois que c'est les dockers, enfin j'ai plus le Mais c'est un peu ça. C'est
ouais, ouais,
le reportage in situ.
Ouais,
c'est-à-dire, ouais. il fait le boulot. C'est un peu ce qu'a fait Aubenas.
Voilà, tout à fait.
À une autre époque, évidemment.
Ouais.
Il a cité Aubenas et Jack London tout à l'heure, Jean.
Ah, j'ai pas entendu Jack London.
Jack London, non.
Non.
Ah non.
Non, non, je pense
non, c'est
pas.
Pour ça que j'ai...
Non, j'ai cité Albert Londres et Kessel.
D'accord. Pas pareil.
Mais alors...
London.
Oui.
Philippe
Ah oui, non, sinon
ah,
j'ai...
c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, effectivement.
Non, sinon j'ai lu un petit livre sur lequel je suis tombé par hasard. En fait, c'est un géo... Ça fait partie de la Radical Geography, je crois, un truc comme ça. David Harvey, ça, le nouvel impérialisme, ça s'appelle. Bon. Et donc, c'est un géographe qui est aux États-Unis. Bon, alors, c'est assez intéressant. Il essaie d'analyser ce qui se passe aujourd'hui, le rôle des États-Unis, tout ça. Bon. Alors, il y a des passages un peu obscurs, j'ai trouvé. Mais ceci dit, il y a tout à la fin, il y a une espèce de... Toute une tentative d'analyse avec... où il dit deux choses, quoi. Il dit que bon, dans le capitalisme, il y a à la fois l'accumulation par l'exploitation de la force de travail, bon, l'accumulation classique, on va dire, etc. Et puis, alors, il essaye de faire quelque chose autour du fait que, comme il y a eu une accumulation primitive, au début, donc l'accumulation primitive, hein, par laquelle le capitalisme s'est instauré, selon Marx, c'est-à-dire avec le fait de capter toute une série de richesses, les terres en Angleterre, bon, tout ça. Et lui, il essaye de montrer, alors, bon, il cite plein d'auteurs, on n'a pas le temps d'en parler, mais que, en fait, ce qu'il appelle, il essaie de théoriser ce qu'il appelle une accumulation par dépossession, comme une caractéristique constante du capitalisme, qui, finalement, non seulement exploiterait, enfin, voilà, pour résoudre ses problèmes, doit constamment déposséder les peuples, etc., de leur bien commun, alors de leurs services publics, de leurs terres, etc., et que ce serait une sorte d'élément structurel du capitalisme qui s'accomplit notamment à travers le pouvoir financier, en fait. Bon, ça, c'est... Et alors, du coup, ça cette fin est assez intéressante, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait là, autour de cette notion d'accumulation par dépossession, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, voilà.
Alors pour terminer, peut-être quand même, Laurent, tu nous donnes quelques titres pas sérieux que tu as lus. À moins que tu aies écrit, au fait.
Non, mais c'était... Alors ça, c'est vrai,
ah.
Mais c'était très sincère. J'ai entrepris aucune lecture cet été. Et je peux te dire pourquoi, c'est que je reste planté au milieu de Guerre et Paix de Tolstoï depuis 6 mois.
Moi, j'ai lu La mort d'Ivan Illich, c'est plus petit. Comme ça, on peut finir.
Et en ne sachant pas comment faire par rapport à cet état, donc je suis planté depuis 6 mois, je ne sais pas si je dois m'obstiner ou si si je dois me refaire un autre plan de lecture.
T'es arrivé où ?
Oh, bah écoute,
tu sais même plus. Il faut recommencer alors. Puis il faut y aller direct.
Oui, c'est terrible. Bon, donc voilà, je ne sais toujours pas ce que je vais faire, mais je crois que Thompson, là, ça m'est tombé complètement dans l'oreille et je vais repartir comme ça. Et Tolstoï, je me ferai raconter par Guy parce qu'il l'a lu.
Quoique,
il y avait la lecture rapide par Woody Allen, il disait « c'est la guerre et ça se passe en Russie
». Et c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h, et sur le net radiopfm.com. Salut et à la semaine prochaine.